Affirmer l'unicité de Dieu. Texte sacré. Le Tawhid, unicité, est le terme islamique qui résume le mieux à lui tout seul la conception que les musulmans ont de Dieu. La sourate 112, l'une des plus anciennes et des plus courtes, porte en tête un mot qui signifie « le monothéisme pur ». Ce mot a littéralement le sens de « sincérité, authenticité ». Cette notion d'unicité est si importante que cette sourate est considérée comme représentant un tiers du credo musulman. Seule la Fatiha, celle qui commence, la première sourate, surpasse celle-ci en importance. En général, les musulmans la connaissent par cœur, aussi bien et peut-être même mieux que les chrétiens connaissent le psaume de David intitulé « L'Éternel est mon berger ». Voici le début de cette sourate. Dit « Il est Dieu, unique, c'est le Dieu éternel. Il n'a point enfanté et n'a point été enfanté. Il n'a point d'égal. » À retenir. Ce passage s'adressait directement aux gens de la Mecque pour qui Dieu était un Dieu parmi d'autres et avait trois filles. Cette conception d'un Dieu ayant femme et enfant revenait à commettre le péché de shirk, association, le péché le plus grave dans l'islam. Il y a également le péché de shirk quand on admet qu'il existe d'autres dieux et qu'ils ont avec Dieu une part du pouvoir. La sourate 4, 116, déclare « Dieu ne pardonnera pas le crime de ceux qui lui associent d'autres divinités. Il pardonnera tout le reste à qui il voudra. » Cette insistance des musulmans sur l'unicité de Dieu et leur horreur du péché de shirk, qui en est la négation, va bien au-delà d'un simple rejet du polythéisme pris au sens premier. Un professeur d'université spécialiste des religions, Michael Sells, a écrit un ouvrage d'introduction au Coran qui fait ressortir quatre aspects découlant de l'unicité de Dieu. Et j'en ajoute moi-même un cinquième. Rejet du polythéisme, croyance en plusieurs dieux, et rejet du fait d'associer d'autres êtres à Dieu. Du point de vue musulman, le paganisme et l'hindouisme sont coupables d'association dans la mesure où ces écoles de pensée acceptent une multiplicité de dieux. Rejet d'une fidélité inconditionnelle à autre chose que Dieu, comme l'argent, le pouvoir ou les richesses matérielles. Si les Occidentaux aujourd'hui ne sont pas enclins à s'attacher à d'autres dieux au sens propre du terme, beaucoup ont néanmoins une certaine propension à mettre l'argent, les richesses matérielles, la patrie, la famille ou la réputation de leur famille bien avant Dieu, ce qui est une forme d'idolâtrie. L'unité interne de Dieu. Non seulement il n'existe pas d'autre Dieu en dehors de Dieu, mais en Dieu lui-même, il n'y a pas non plus de multiplicité. La sourate 112 n'était pas dirigée à l'origine contre le concept chrétien de Trinité, un Dieu en trois personnes. Cependant, les musulmans en vinrent rapidement à considérer que la sourate 112 impliquait le rejet du concept chrétien de la Trinité, qui affirme l'existence d'une multiplicité dans la nature de Dieu. Père, Fils et Esprit-Saint. Anéantissement de sa propre réalité qui n'est pas permanente. Pour les mystiques soufis, la sourate 112 implique que si Dieu est le seul à être réel et éternel, le développement spirituel de l'homme passe nécessairement par l'oubli de soi-même. L'égocentrisme de l'homme le détourne de la contemplation de Dieu. Affirmation de l'unicité de Dieu. Rien n'est par essence semblable à Dieu. On peut dire que certaines réalités sont, d'une certaine façon, à la ressemblance de Dieu. Par exemple, le sentiment de miséricorde que peut ressentir l'homme ressemble à la miséricorde divine. Cependant, selon le grand théologien musulman Abu Hamid al-Ghazali, 1058-1111, cette comparaison ne signifie pas que la miséricorde de l'homme est la même que celle de Dieu, même si elle en est tout de même un reflet. Pour aller plus loin, Al-Halaj, le grand mystique soufi qui fut martyrisé au Xe siècle, a déclaré que Satan était le monothéiste le plus cohérent. Dans le Coran, il est dit que quand Adam a été créé, Dieu a demandé à tous les anges de se prosterner devant l'homme. Satan a refusé de le faire. Al-Halaj fit remarquer qu'en cela, Satan était celui qui s'était montré le plus obéissant au commandement de Dieu, qui veut que l'on ne vénère que Dieu lui-même. Satan a obéi à ce commandement, même quand cela l'a mené à sa propre condamnation.
Les versets sataniques. En 1988, Salman Rushdie, l'auteur britannique d'origine indienne, couronné par plusieurs prix littéraires, a publié un roman intitulé « Les versets sataniques » qui a suscité de nombreuses polémiques dans le monde entier. Beaucoup de musulmans considèrent ce roman comme blasphématoire. L'ayatollah Khomeini, qui était alors le chef spirituel suprême d'Iran, prononça même une sentence de mort, fatwa, à l'encontre de Rushdie. Le titre du roman de Salman Rushdie fait allusion à un récit qui figure dans la biographie officielle du prophète Mohammed et dans les œuvres d'Al-Tabari, le grand historien et exégète du Coran qui vécut dans les premiers temps de l'islam. Même si nombreux sont les penseurs musulmans qui considèrent que ce récit n'est pas authentique, il n'en reste pas moins vrai qu'historiquement, il date d'une période très ancienne. Selon certains historiens occidentaux de l'islam, tels W. Montgomery Watt, l'authenticité de ce récit, si contraire aux croyances qui se développèrent par la suite, paraît plus vraisemblable qu'une pure invention. En s'attaquant au polythéisme, Mohammed s'est heurté à une opposition qui s'explique en partie par le fait qu'il remettait ainsi implicitement en question les convictions religieuses des ancêtres de ses contemporains. Dans un récit d'Al-Tabari, il est écrit que le prophète Mohammed espérait avoir une révélation qui lui permettrait de résoudre la situation conflictuelle qu'il entretenait avec ses compatriotes de la Mecque. Il se mit alors à réciter la sourate 53, 19, 20 « Que vous semble d'Al-Lat et d'Al-Odza, et cet autre, Manat, la troisième idole ?» Le mot « Al-Lat » signifie simplement « la déesse ». Le mot « Al-Odza » veut dire « le Tout-Puissant », que l'on assimile à Vénus, l'étoile du matin, divinité qui était très populaire chez les Coréchites de la Mecque. Manat signifie le destin, une notion très importante dans les religions arabes pré-islamiques. Ces déesses sont considérées comme les filles d'Allah, ce qui pourrait tout simplement vouloir dire les divinités féminines. À l'époque pré-islamique, elles étaient vénérées dans des sanctuaires autour de la Mecque. Selon la version d'Al-Tabari, qui, ne l'oublions pas, est contestée, le prophète Mohammed aurait ajouté « Ces déesses sont d'illustres divinités dont l'intercession doit être espérée. » Cette phrase semble reconnaître un rôle subalterne à ces trois divinités. Mais cette question a eu d'énormes répercussions dans la théologie même de l'islam. En effet, selon la doctrine de l'abrogeant et de l'abrogé, An-Nasikh wal Mansukh, écoutez le chapitre 5, le Coran, partie les versets abrogés. Les versets sataniques ont été supprimés du Coran alors même que le prophète, inspiré en secret par Satan le tentateur, aurait présenté les déesses anté-islamiques comme étant de nature quasi divine. Déesses sublimes, comme disait Régis Blachère, un traducteur français du Coran. Comment expliquer que le prophète d'Allah pouvait se tromper? La doxa évoque le fait que Satan était à la manœuvre et prononçait à haute voix les noms des deux divinités à la place même du prophète, ce qui n'a pas manqué d'abuser les croyants. D'ailleurs, le Coran le fait savoir clairement. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu confirme ensuite ces versets, car il est celui qui sait. 22-52. Depuis 14 siècles, l'herméneutique musulmane travaille ces versets. Elle en extrait le sens profond et pose, en face, les éléments qui permettent d'isoler les vrais et les faux versets. Lorsque l'écrivain anglo-britannique s'est emparé du sujet, la situation hyper-idéologique de l'islam, notamment en Iran, favorisait une confrontation grandeur nature. Aussi, l'ayatollah Khomeini n'a-t-il pas hésité à décréter la mort du mécréant Rushdie. Là-dessus, La planète tout entière s'est enflammée, les uns soutenant la fatwa de mise à mort, les autres la condamnant sans réserve. Piqué au vif, l'intelligentsia laïque d'Occident a trouvé là un thème à sa mesure pour manifester son refus de toute dictature au nom de Dieu, tandis que la mollarchie iranienne y a vu un intérêt secondaire puissant. S'emparer du monopole de la bonne parole en islam au détriment de ses rivaux sunnites, arabes et surtout wahhabites. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce combat entre Orient et Occident en cachait un autre, tout aussi frontal, la rivalité entre voisins. Les chiites d'un côté, conduits par l'Iran, et les sunnites de l'autre, conduits par l'Arabie saoudite. Plus subtilement encore, les chiites considéraient que les sunnites avaient perdu leur âme, car comme l'Irak au temps du Ba'at et de Saddam Hussein, ils se proclamaient ouvertement laïcs, voire athées. Enfin, dernier niveau d'antagonisme subversif. Le matérialisme dialectique des anciens communistes, opposé à la spiritualité chiite et au clergé dogmatique wahhabite, qui, dans ses livres sacrés, était supposé détenir la vérité voulue par Allah. L'affaire dite des versets sataniques a tout à coup réveillé un torrent d'acrimonie et de haine régionales ancestrales.
Et après tout, pourquoi pas ? L'islam a accepté l'existence d'un certain nombre d'entités intermédiaires entre Dieu et les hommes, comme les anges et les djinns. Écoutez chapitre 7. Alors pourquoi ne pas accepter aussi ces entités pour se concilier les bonnes grâces des habitants de la Mecque qui reçurent ces paroles du prophète Mohammed avec tant de joie? En réalité, cela aurait signifié un retour au polythéisme. Par la suite, l'ange Gabriel a informé Mohammed qu'il avait été induit en erreur par Satan. Mohammed supprima cette déclaration sur le rôle d'intercession des divinités en question et les remplaça par de nouveaux versets reçus en révélation, notamment le verset 53-23, qui dit que ces trois divinités ne sont que des noms et n'existent pas en réalité. Les versets supprimés sont appelés versets sataniques. Si l'on ne sait pas avec certitude si cette histoire remonte effectivement au temps du prophète Mohammed, elle n'en reflète pas moins les débats conflictuels qui eurent lieu autour du thème de l'unicité de Dieu et de l'association, shirk.
La shahada, le premier pilier de l'islam. La profession de foi principale, shahada, de l'islam, constitue le premier et le plus important des cinq piliers de l'islam. Écoutez le chapitre 9. La première partie de cette profession de foi repose sur l'affirmation de l'unicité de Dieu, tawhid, qui est fondatrice dans l'islam. Elle déclare « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu ». Même si cette profession de foi ne se trouve pas en un seul et même endroit dans le Coran, ces deux parties, de part et d'autre de la conjonction « et », y figurent un certain nombre de fois séparément. Ainsi, dans la sourate 3:18, il est dit « Dieu atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. »